La vroche de Monsieur Gueudin. Ah, fallait la voir, la petite vroche de Monsieur Gueudin, comme elle était jolie avec sa longue crinière rousse, ses yeux ciel et son petit cul rose. C'était la plus jeune du troupeau, mais aussi la plus téméraire, la plus insolente et la plus bichonnée par ce doux Monsieur Gueudin. Celui-ci était fort attentionné au bien-être de son troupeau. Le vaste enclos ombragé était un tapis de yucaïda bien grasse et tendre. Au fond, un abri planchu jouxtait le parc privé mais exigu où le vrochard faisait du gras en attendant la saison du houlala. Rien n'était trop bon pour les vroches de Monsieur Gueudin. Le matin, il leur portait de généreuses rations de protamines granulodépendantes. Quelquefois, à la saison des tourtes, il leur portait même des longues lanières succulentes, des arbres à longues lanières succulentes. Son seul souci était que ses vroches s'ennuyassent. Il avait déjà perdu nombre de têtes à cause de cette funeste obsession, aller dans la montagne. Ce matin-là, le bon Monsieur Gueudin sortit de sa maison, courbé par les ans et l'usure des lombaires L4, L5 et L6. Il glissa rapidement dans un flap-flap de savate sur l'allée lisse de la silice qui menait au jardin, où il s'affaira avant que le soleil ne darde. Plié en deux au milieu des légumes, il avançait le binoir à la main comme un pénitent agité de courbettes, ou bien comme un myope cherchant à entrer en contact avec ses lentilles. Sa besogne faite, il sortit du jardin, le panier au bras et le sourire aux lèvres. Il se déplaçait à petits pas rapides et glissés et donnait l'impression que seuls ses pieds le mouvaient. Il allait bifurquer vers sa demeure quand il aperçut près de la clôture Stouquette qui sautillait en le voyant. La jolie petite vroche rousse s'appelait ainsi, et Monsieur Gueudin ne put résister à son appel. Il préleva un légume dans le panier et le porta à la jolie.
Tiens, Stouquette, c'est un combre tout frais cueilli.
La mignonne se mit à sauter de joie, et aussi parce qu'elle adorait sauter. Puis elle se saisit du combre qu'elle lécha goulûment avant de l'engloutir. Le vieux lui caressa la tête en lui disant
« Tu es heureuse ici. N'est-ce point bel endroit pour vivre belle vie de vroche, à l'abri du besoin et du moche ?»«
Bien sûr, ça déchire grave la race de sa mère !»
répondit la petite en recommençant à sautiller sur place comme un cabri hystérique. Monsieur Gueudin, plié en deux, avait peine à suivre les évolutions de la vroche. Elle se calma un moment, revint à la barrière et lui dit joyeusement
« Ce qui serait top mortel, ce serait de pouvoir aller dans la montagne pour faire des putains de sauts. »
« Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes avec cette montagne? Toi aussi, Stouquette, tu veux partir? Tu sais bien que là-haut, c'est l'empire du felou, l'empire du felou. » Te souviens-tu de la Bouriaude, comme elle était robuste et hargneuse? Sa maîtrise dans le fight pied-pointe est incomparable. Pourtant, c'est la dernière disparue. Elle a lutté toute la nuit. J'entendais ici en bas le bruit du combat. Mais une vroche n'est pas équipée pour tenir tête au flou. Au matin, il l'a bouffée.
Stouquette, encore bien jeune, se souvenait très bien de la disparition de la Bouriaude et de quelques autres. Elle savait la menace du felou, mais comprenait aussi l'envie de la Bouriaude. Le père Gueudin le savait aussi, car la veille de la fuite de la malheureuse, il l'avait attachée au pieu. Mais au matin, le pieu était seul et la longe vide. La Bouriaude avait disparu.
« Je n'ai aucune envie de me bastonner avec le flou !»
le rassura-t-elle.
« C'est mieux comme ça. Tu sais que je tiens beaucoup à toi. Tu es la plus belle et la plus intelligente. Ce serait grand malheur que de servir de repas au flou. On t'a sûrement déjà raconté combien la bête est euphorique et féroce. Ses déplacements sont si vifs qu'on ne peut distinguer de lui qu'un flou noir et menaçant. Lorsqu'on le voit vraiment, c'est vraiment trop tard. Griffes, crocs, piques, lames, pointes, gueules, cisailles, broyeurs, déchiqueteurs, étripeuses, dévoyauteuses.
Ouais, oh !
L'interrompit la brochette.
J'ai bien compris. Ça devient un peu visqueux comme des mots et ça fout la pétoche. Mais quand même, la montagne...
Le père Guedin remonta le chemin en hochant silencieusement le chef. Il revint peu après et Stouquette vit qu'il cachait une longe dans son dos. En fait, comme il était plié en deux, son dos était exposé et il ne pouvait rien y cacher. Il se dirigea vers elle. L'enclos pour la jeune vroche commençait à être étriqué, mais la corde s'en était trop. Affolée, elle se mit à cavaler et sauter de façon totalement aléatoire, jusqu'à se faire coincer dans l'angle de la clôture du pré. Le Guedin tendit la main. Il y avait en son creux un cube de gouin frex bien suant. L'arôme du nectar caressa les narines de Stouquette qui s'approcha de l'irrésistible friandise. Elle allait succomber quand elle vit la longe se dérouler. Elle fit volte-face vers la barrière qui se trouvait à 5 pas, n'en fit que 4, prit son appel et fit un putain de saut. Jamais elle n'avait réussi pareil saut. Un saut explosif et maîtrisé, sonore et sec. Un saut si sec, un saut si son, un saut si son sec, un saut si gigantesque qu'elle avait franchi l'infranchissable périmètre carcéral. Bref, un putain de saut. La brochette était dehors. Le père Guedin gueulait, accroché au grillage.
Reviens, Stouquette, reviens.
Mais rien n'y fit. La folasse s'enfuit en gloussant et bondissant de plus belle. La rosée, agréable aux pieds, les nouvelles senteurs firent qu'elle s'enivra de liberté et de bonds en galopade arriva en haut de la montagne. Là, ce n'était que couleurs et parfums. Les fruits inconnus qui pullulaient dans les arbres et les buissons avaient une saveur délicieuse. Tout autour d'elle dévalaient des vallons de prairies et sous-bois gorgés de fraîcheur. De hautes plantes aux larges feuilles odorantes lui procurèrent un surprenant bien-être. Tout ici était beau et grand. Elle gambada tout le jour, follement, sautant par-ci, grignotant par-là, s'émerveillant de la splendeur des mamillons multicolores qui voletaient autour d'elle. Quand le ciel commença à devenir violet, elle entendit loin en bas dans la vallée une cloche qui semblait dire
« Reviens, Stouquette, reviens. »
Elle sentit un vent froid lui prendre l'échine. Le jour baissa. Son enthousiasme aussi. Elle était dans la montagne. Les ombres nocturnes montaient rapidement des vallées. Stouquette était à la merci du felou. Elle frissonnait maintenant, moins de froid que de peur. Elle s'était cependant résolue à vendre chèrement sa couenne et à tenir jusqu'à l'aube, comme la bourriaude. La nuit vint, et avec elle des bruits inquiétants. Un battement sourd dans l'air et le sol, comme les pas inexorables d'un monstre. Elle s'éloigna prestement et les bruits cessèrent. Quand ils reprirent, ils étaient horriblement proches et accompagnés de deux yeux flamboyants dans le noir. Elle n'arrivait même pas à sautiller, collée au sol par la terreur. Elle inspira un grand coup d'air frais. Les yeux flamboyants bondirent sur elle en rugissant. Elle sauta. L'engin freina brutalement et dérapa du cul. Il s'immobilisa de guingois dans la pente les 4 phares en l'air. Le moteur du véhicule se tut. et deux jeunes vrochards s'en extirpèrent. Avisant Stouquet, immobile, l'un d'eux déclara.
Je ne sais pas ce que tu fais ici, mais tu fais des putains de sauts.
Interloqué, la petiote prête au baston final se détendit. Jamais elle n'avait vu de jeune vrochard, et encore moins chevauchant une pétaradante machine.
Et d'où sors-tu ?
Demanda l'autre vrochard.
Je viens d'en bas de la vallée, de chez Monsieur Guedin. J'ai cru quand vous avez déboulé que c'était le felou qui venait me bouffer.
C'est quoi ce felou ? T'aurais pas abusé des fleurs collantes ?
Insinua le grand à la chevelure torsadée.
Pas du tout.
Se défendit Stouquet.
Et qui donc a fait disparaître mes copines vaches ? Et la bourriaude ? Qui l'a becté ? Les fleurs collantes, peut-être ?
Mais enfin !
Intervint l'autre vrochard.
Jamais aucune vroche n'est venue de la vallée, comme jamais aucun de nous n'y est allé. Des légendes tenaces affirment qu'un monstre hante le fond. Mais nous ne connaissons ici ni brouillaude, ni felou, ni... Comment t'appelles-tu ?
La vrochette se présenta, et en les aidant à remettre leur machine sur ses pattes, leur conta son histoire et son évasion. Les deux mâles, émus par la jolie petite vroche, l'emmenèrent jusqu'au village. C'était un ensemble d'habitations à demi-troglodytes, d'où provenaient moult rires, lumières et musiques. Partout, vrochards et vrochettes sautillaient de bonheur. Certains lampaient de mystérieux élixirs, d'autres gigotaient sur le rythme d'infernal batucada. D'autres encore s'entresautaient dans de glorieuses parties de oulala. Le peuple de la montagne réunit un conseil qui convint qu'il existait encore en fond de combe une créature qui élevait et mangeait des vroches. Celle qui avait des envies de liberté passait par la longe et le pieu, puis par la casserole. Mieux que les clôtures, le gueudin avait réussi à séquestrer son troupeau par la peur du dehors. Avec ses histoires de felous. Déjà fort apprécié pour son mignon minois, son joli petit cul rose et ses putains de seaux, Stouquet devint une héroïne, un symbole, une cause. Elle fonda un groupe et selon les règles locales, lui attribua le nom de Front de Libération de la Vroche, quenelle hystérique. À son appel, une horde de volontaires teigneux déboula vers la maison de ce fumier de Guedin. À mi-chemin, ils rencontrèrent le troupeau de Guedin l'ourdure qui remontait vers le sommet. S'étant aperçus de la fuite de Stouquet, cette chure de Guedin, se doutant de la suite, avait détalé en abandonnant ses vroches. Oh, ce genre de personnage trouvera toujours sur ce vaste monde de sombres repères où se terrent les tyrans qui usent de clôtures, de chaînes et de règlements. La jolie petite vroche de cet de Monsieur Guedin trouva la vie très cool sur la montagne et se jura de ne plus gober les fables d'Alphonse qui foutent la trouille aux petits en prétendant, sans y être, que l'enfer c'est l'ailleurs.